nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Focus. Nous avons le plaisir de vous recevoir tout au long de cette semaine pour évoquer quatre faits marquants de votre vie. Alors avant de commencer, si vous le permettez, je vais retracer quelques événements clés de votre carrière. Vous avez fait des études de lettres, de droit et de sciences politiques. Et puis vous êtes entré à l'ENA. En 1974, vous entrez comme directeur du cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie. Les années suivantes, vous devenez inspecteur des finances, puis directeur du Trésor. Successivement, vous devenez l'administrateur de Renault, d'Air France, de l'aérospatiale, de la SNCF. Et puis, de 1978 et jusqu'en 1987, vous êtes nommé directeur général du Fonds monétaire international, du FMI. Et de 87 à 93, vous devenez gouverneur de la Banque de France. Vous enchaînez les postes à responsabilité puisque vous remplacez en 1993 le créateur de la BERD qui s'appelle Jacques Attali et vous démissionnez en 1998 avant de devenir conseiller pour le groupe BNP Paribas. Ajoutons enfin que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 12 ans dans la section générale. Alors pour cette première journée, nous allons parler du Fonds monétaire international dans le cadre de la crise des années 80, c'est cela ?
Oui, tout à fait.
Alors à cette période, vous êtes le directeur du FMI en 1978, très exactement. Alors tout d'abord, comment êtes-vous arrivé à un tel poste ?
Oui, il faut savoir que le poste de directeur général du Fonds monétaire international est un poste où on est élu par l'ensemble des pays membres du Fonds monétaire international. Ils sont plus d'une centaine. Et donc, il faut passer le test de l'élection. Et comme j'avais été pas mal occupé à des fonctions internationales quand j'étais au Trésor, que j'avais participé à des négociations, on me connaissait, il y a eu un certain nombre de candidats et il se trouve que c'est moi qui, en fin de compte, ai été élu à l'unanimité du Conseil. Alors, ce que je voulais dire, puisque vous avez bien voulu dire que c'était un peu les années 80 qui étaient le point fort de cette partie-là de ma carrière, il faut savoir que quand je suis arrivé au Fonds monétaire international en 78, le Fonds monétaire était un peu dans une période de basses eaux. Il ne prêtait plus aux grands pays industriels. Les derniers prêts à la Grande-Bretagne, à l'Italie, datent des années 75-76. Et donc en 78, les marchés s'étaient beaucoup développés. Les pays industrialisés recouraient peu au Fonds monétaire international. Et les pays en développement, comme on les appelait à l'époque, ou les pays émergents, commençaient à venir au Fonds monétaire. Mais l'activité n'était pas extrêmement prenante. Alors, ce qui s'est passé en 82 était assez dramatique. Un certain nombre de pays, notamment d'Amérique latine, avaient beaucoup emprunté au cours des années 70, qui étaient des années de forte inflation, et ils empruntaient parce qu'ils voyaient l'inflation éroder le service de leur dette et le poids de leur dette. Et d'autre part, l'inflation entraînait toujours plus haut le prix des matières premières qu'ils exportaient. Et donc, ils se disaient, c'est un jeu gagnant. J'emprunte, ma dette se dévalorise en quelque sorte, et les matières premières que j'exporte compensent très largement les accroissements de dette que je forme. Ce jeu s'est arrêté au début des années 80. Avec un phénomène qu'il faut absolument avoir à l'esprit si on veut comprendre le problème de la dette des années 80, c'est la décision du patron de la Federal Reserve aux États-Unis en 1979, à la fin de 79, de casser l'inflation, qui était une inflation à deux chiffres, aux États-Unis, dans l'ensemble des pays développés. Il a décidé de casser l'inflation en remontant les taux d'intérêt et en pratiquant une politique très restrictive en matière monétaire. Alors il faut comprendre que les pays qui avaient emprunté à taux variable se sont vus tout d'un coup devoir payer des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, puisque telle était la situation que ceux auxquels ils empruntaient précédemment. Et deuxièmement, Cette contraction monétaire américaine s'est répandue à travers le monde, car les États-Unis ont toujours une position dominante, et ça s'est traduit par une récession mondiale. Et donc, les matières premières que jusqu'à présent, ils exportaient facilement à des prix toujours croissants, ces matières premières ont été beaucoup plus difficiles à exporter, les revenus de leur balance des paiements en ont pâti, et au début mi-82, des pays comme le Mexique, le Brésil, l'Argentine ont fait face à une difficulté majeure qui s'est traduite par une visite qui est restée célèbre et particulièrement vive dans ma mémoire. C'était en août 1982, la visite du ministre des Finances du Mexique au directeur général du Fonds monétaire international que j'étais et qui m'a annoncé demain, c'était je crois le 9 août qu'il est venu me voir.
Ah, c'est très précis.
Oui, c'était très précis parce que ce sont des dates qui marquent.
9 août 82,
j'étais à Washington, il faisait chaud et humide et il est venu me voir et il m'a dit demain, le Mexique annonce le moratoire, c'est-à-dire le non-paiement du service de sa dette. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que les banques commerciales qui avaient prêté, qui étaient créancières du Mexique, avaient des engagements sur le Mexique, des créances sur le Mexique et sur l'Argentine et sur le Brésil, qui allaient très au-delà de leur capital. Et donc, s'il avait fallu passer en perte la totalité des créances sur ces trois grands pays, plus d'autres qui suivaient, elles n'auraient pas pu faire face puisque leur capital était insuffisant. Et donc, c'était des banques qui étaient virtuellement en état, elles aussi, de faillite. Donc, pour éviter une contraction brutale du système financier du monde, qui serait traduit par, non pas une récession, mais sans doute une dépression mondiale, il a fallu agir extrêmement vite. Et ce que j'ai fait dans cette circonstance, et qui m'est venu un peu par instinct et inspiration, c'est de dire à ce ministre des Finances, il y a une chose que vous n'allez pas faire, bien que vous me l'ayez annoncé, c'est de publier un communiqué de presse demain disant que vous arrêtez les paiements. Et il m'a dit, je ne peux pas payer. Je lui ai dit, oui, vous n'allez pas payer puisque vous n'avez pas les moyens. Mais il ne faut pas que vous déclariez ça. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prévenir la quinzaine de grandes banques internationales qui faisaient 80% des créances sur ces pays-là, nous allons les prévenir de cette situation. Nous allons dire qu'une mission du Fonds monétaire international est partie déjà, c'est-à-dire aujourd'hui même, dans votre pays pour négocier un programme de redressement de votre économie, de vos comptes extérieurs, de votre politique monétaire, etc. Et nous allons leur demander de patienter, de telle sorte que le défaut ne sera pas un défaut formel qui obligera ou obligerait les banques à passer en perte ces crédits, mais ce sera plutôt une sorte d'attente en prévision du moment où vous aurez un programme avec le Fonds monétaire international et vous aurez des financements qui viendront de ces banques internationales auquel je demanderais de rééchelonner, d'étaler leur créance. Et c'est ce qu'on a fait. J'en ai parlé aussitôt au chef de la Federal Reserve System, qui était Paul Volcker, dont j'ai parlé il y a un instant. Et il était tout à fait d'accord avec moi sur le diagnostic et sur la manière d'opérer. Et nous avons donc mis en œuvre, je dis nous parce que je l'ai fait en liaison avec lui, avec le Trésor américain.
Avec une équipe
Oui, et puis mes équipes au Fonds monétaire international, on a donc mis en œuvre ce qu'on a appelé depuis, dans la littérature économique, la stratégie coopérative de la dette. Et ça consiste à quoi? J'en terminerai par là. Ça consiste à quoi, la stratégie coopérative de la dette? Ça consiste à dire, dans un problème de dette, c'est ça que l'Argentine n'a pas compris en 2003, 2004, 2005. Dans un problème de dette, il y a deux parties. Il y a le débiteur et il y a le créancier. Si on veut résoudre ce problème, il faut, de même que dans les problèmes de difficultés internes ou les faillites d'entreprise, il faut mettre autour d'une table le débiteur et les créanciers. L'intérêt des créanciers n'est pas de réclamer en justice le paiement immédiat de leur créance, puisqu'on est devant un cas de force majeure et d'impossibilité. L'intérêt des créanciers est de donner suffisamment de temps au débiteur pour que celui-ci puisse se réorganiser, améliorer la gestion économique, se refaire en quelque sorte une santé et puisse, à terme, commencer à repayer sa dette. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai donc un peu inauguré cette stratégie coopérative de la dette. Les banquiers ont été coopératifs, puisqu'ils n'avaient d'ailleurs pas beaucoup de choix.
Ils n'avaient pas trop de choix, oui.
Les débiteurs l'ont été aussi. On a monté des programmes et les rééchelonnements, les restructurations de dette ont permis à ces pays de regagner petit à petit une capacité de repaiement.
Mais finalement, ça s'est bien passé pour le Mexique, mais je suppose qu'il devait y avoir également d'autres pays
bien
qui
sûr,
devaient être dans cette
vous
situation.
Vous avez tout à fait raison. J'ai parlé du Mexique parce que ça a été le premier à se manifester et le plus gros. Mais il y a eu le Brésil, qui avait une typologie analogue et que nous avons traité de la même façon. Il y avait l'Argentine, qui était également dans une situation semblable, encore que moindre par ses volumes, et que nous avons traité de manière similaire. Et donc, c'est une
Et à chaque fois, vous
stratégie.
Avez toujours réussi
oui,
à rééchelonner les créances.
Oui, absolument. On a réussi parce qu'il y avait une volonté coopérative des deux côtés. Alors, c'est un épisode qui a été important dans mon histoire personnelle, parce que c'est pas tous les jours que vous êtes confronté au risque d'une rupture du système financier mondial. Et en même temps, c'était intéressant du point de vue conceptuel, parce qu'il fallait mettre en place des méthodes de traitement de dette qui n'avaient pas été formulées de la même manière. Il fallait aussi leur donner un contenu juridique, etc. Donc tout
Vos
ça...
Vos prédécesseurs n'avaient pas été confrontés encore
non,
à ce problème-là. Vous
non,
étiez le premier.
Oui, c'était le premier du temps du fond. Il n'y avait pas eu, dans les années précédentes, il n'y avait pas eu de grands problèmes de dette.
Et finalement, vous en êtes bien tiré.
On s'en est bien tiré et je suis donc reconnaissant aux équipes du Fonds monétaire pour leur disponibilité, leur intelligence, leur capacité à conceptualiser tous ces problèmes et à les résoudre. Je suis reconnaissant à un homme remarquable qui s'appelle Paul Volcker, qui a compris cette stratégie et qui m'a épaulé avec son autorité phénoménale pendant tout le temps où elle s'est développée. Je suis très reconnaissant à un banquier privé qui s'appelle Bill Rhodes, qui travaillait à Citibank, qui travaille toujours, et qui a été celui chez les banques qui galvanisait les banquiers pour dire « Écoutez, il faut être coopératif ». Et il a fait un travail sensationnel. Et puis je suis très reconnaissant aussi à l'égard des pays qui ont compris qu'il fallait s'y mettre. Et donc, ça a été une histoire, pour une fois, parce que c'est rare dans la vie, mais pour une fois, c'est une histoire qui a bien fonctionné.
Qui a bien fonctionné. Merci Jacques Delarosière. On se retrouve demain pour évoquer cette fois-ci la défense du franc dans les années 90. À très bientôt.
Merci.